9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On va revenir sur l'affaire des sous-marins australiens qui est bien plus qu'une histoire de contrat rompu de manière indigne. Mon premier invité est directeur de la rédaction de la revue Conflit. Bonjour Guil Mihaeli.
Bonjour.
Je recevrai ensuite Alexandre Mars sur la semaine extraordinaire que vient de vivre la French Tech. Deux startups françaises ont annoncé mardi avoir récolté plus d'un milliard d'euros. Et l'on terminera l'émission avec Anne Leherf. Elle préside le Conseil national de la recherche archéologique et elle publie le Dictionnaire amoureux de l'archéologie, une discipline qui a révolutionné l'état de nos connaissances au cours des dernières décennies.
Europe 1.
Guil Mihaeli, dans le commerce des armes, les sommes sont telles que tous les coups sont permis, y compris entre alliés. Mais on va voir que cette affaire des sous-marins australiens, c'est bien plus qu'une affaire de gros sous. Mais bon, c'est d'abord une affaire de gros sous, un cas de rupture de contrat. Est-ce qu'il y avait des précédents?
Oui, il y avait quelques précédents. La dernière fois, on était impliqué. C'était avec les frégates qu'on a vendues aux Russes. Même si le contexte n'est pas pareil, il n'y avait pas un tiers qui nous a raflé la mise. Nous avons décidé de punir les Russes et d'annuler la vente de 3 frégates de classe Mistral. C'était sous Hollande, il y a quelques années.
Il y avait eu le cas des vedettes israéliennes payées par l'État d'Israël à l'époque, en 1967, retenues à Cherbourg à cause de l'embargo sur l'armement décrété par le général de Gaulle. Les Israéliens avaient fini par les voler, ces vedettes.
Oui, tout à fait. Et c'est à peu près le même contexte qu'avec la Mistral, avec un autre dénouement. Et il y avait un autre cas qui ressemble un petit peu plus au cas des sous-marins. C'est les grands appels d'offres pour les ravitailleurs en vol. Et ADS, à l'époque, avant que ça s'appelle Airbus, a gagné le contrat avec un partenaire américain. Et ça a été annulé par les Américains pour, ils ont trouvé une raison. Finalement, ça a été gagné par une société américaine. Je pense que c'était Lockheed Martin.
On parle d'un contrat de 50 milliards de dollars. On l'a appelé le contrat du siècle. Mais qui aurait rapporté combien à notre pays?
Alors directement, en son entrée bouchant, c'est difficile à dire, mais probablement entre 10 et 15%. Mais ce qui est important, surtout dans ce genre de contrat, c'est pas uniquement l'argent qu'on gagne, ce sont les métiers, les capacités qu'on arrive à maintenir sur place. C'est la capacité de produire pour nous-mêmes des sous-marins ou des rafales ou d'autres plateformes militaires qui exigent toute une filière. C'est très compliqué. On voit aujourd'hui, par exemple, avec les OPR, avec les centrales nucléaires, que même si on sait toujours faire de nucléaire, il faut aussi des soudeurs, il faut aussi des gens qui savent couler du béton pour ce genre de... Donc il y a tout un écosystème, toute une filière qu'il faut entretenir par des contrats. Et c'est là-dessus qu'on a probablement pris un coup. C'est pas un coup, on va se relever. Mais c'est pas uniquement en question d'export, import et d'argent des sociétés qui vont faire des bénéfices. C'est toute une filière qui a pris un coup.
Vous voulez dire que, au fond, pendant très longtemps, l'industrie de l'armement française pouvait vivre simplement en approvisionnant l'armée française. Aujourd'hui, il faut des exportations pour conserver notre indépendance en matière d'armement. On dépend de nos exportations.
Disons que le rôle des exportations a changé. Parce que la France est une exportatrice de systèmes d'armes depuis la fin des années 50, années 60. Il y avait des best-sellers incroyables comme le Mirage 3C. Mais c'était plutôt un outil d'influence plutôt que quelque chose qui assurait les fins de mois de Dassault ou les autres au Matra. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la fin de la guerre froide, le nombre d'unités achetées et les délais entre deux contrats est tel que si on n'a pas de contrat d'exportation, c'est très difficile de maintenir des filières en vie et d'avoir des plateformes made in France abordables. C'est tout le problème est là, parce qu'on peut tous devenir des clients des États-Unis, mais c'est ce qu'on souhaite éviter.
Oui, Joe Biden a beau répéter qu'il aime la France, il ne verrait pas forcément d'un mauvais œil que nos entreprises fassent faillite et que l'on soit obligé de nous approvisionner aux États-Unis.
Tout à fait.
Une humiliation, on a dit que c'était une humiliation pour l'industrie française. Les Australiens justifiant leur décision par l'amateurisme dont les Français auraient fait preuve, en réévaluant à la hausse le prix des sous-marins, en prenant trop de vacances, en arrivant systématiquement en retard au rendez-vous et en refusant de tenir compte des mises en garde que leur auraient adressées les dirigeants australiens. Il y a quelque chose de vrai là-dedans ou c'est juste pour ne pas passer pour le méchant de l'histoire?
Alors, je ne peux pas vérifier les dires des Australiens. Tout ce que je peux dire deux choses. D'abord, que ce qui a été publié par le porte-parole du ministère de la Défense ici, c'est qu'il y avait un document de satisfaction qui a été reçu quelques heures ou quelques jours avant la rupture de projet. Et c'était une étape avant le passage aux prochaines étapes.
Donc, oui, qui avait l'air de dire que tout se passait bien.
Oui, globalement, ça c'est un. Et deux, c'est en règle générale, ce genre de projet ne respecte quasiment jamais les cadres budgétaires ou les cadres temporels, donc les temps. Et ceux parmi nos auditeurs qui ont le malheur de construire leur propre maison ou de faire des travaux conséquents chez eux, savent, c'est pareil. On commence par faire la cuisine pour 20 000 euros et ça va prendre 12 mois. Et 8 mois après, 50 000 euros après, on est toujours en train de arracher les dalles parce qu'on a oublié quelque chose, on n'a pas pris en compte quelque chose. Et qui a raison? L'entrepreneur, nous, c'est souvent, les torts sont souvent partagés.
Bon, mais il y a d'autres raisons au revirement australien, moins commerçantes. On parle d'une nouvelle vision stratégique des États-Unis. Elle serait symbolisée par l'AUKUS, A-U-K-U-S, un accord de défense anglo-américano-australien signé en catimini et que l'on vient juste de découvrir. De quoi s'agit-il?
D'abord, je conteste le mot, l'adjectif « nouvelle ». Barack Obama et Hillary Clinton ont déclaré en 2008-2009 que la tension stratégique des États-Unis va se déplacer de l'Atlantique et de l'Europe, c'est-à-dire face à la Russie et au RSS, vers l'océan Pacifique avec comme nouvelle menace dans l'horizon la Chine. Donc c'était annoncé il y a 11-12 ans, et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les conséquences concrètes de ces genres de processus et de tendances qui sont des très très longues durées. Les Américains s'intéressaient au Pacifique pendant des décennies, et maintenant c'est une nouvelle ère et ils consacrent leurs moyens, leur attention au Pacifique. Ce qui s'est passé, c'est que la situation sous le précédent président chinois avant Xi était tel que les Américains pouvaient laisser passer un tel projet. C'est-à-dire, ils ont laissé faire les Français et les Australiens. Maintenant, ça devient trop, trop important. La Chine semble trop puissante, trop menaçante. Et ils pensaient qu'il faut prendre les choses en main. Et d'ailleurs, ce week-end-là, les quatre pays, les Quad, donc l'Inde, le Japon, les États-Unis et l'Australie sont réunis aux États-Unis pour parler de ce genre de sujets.
On fait une pause, Gil Merelli. On revient tout de suite après. Vous allez nous raconter la suite.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On revient sur l'affaire des sous-marins australiens avec Gil Merelli, le directeur de la publication du magazine Causeur et directeur de la rédaction de la revue Conflit. Si les Australiens ont changé d'avis, s'ils veulent désormais des sous-marins à propulsion nucléaire et plus les sous-marins au diesel qu'ils avaient commandés à la France, c'est en fait pour répondre aux besoins stratégiques des Américains.
Oui, globalement, oui. Les Australiens ne voulaient pas de nucléaire, parce que le nucléaire, c'est le nucléaire. Et du point de vue politique, quand on dit nucléaire dans des pays comme l'Australie, mais pas que, c'est tout de suite Tchernobyl, Hiroshima, Fukushima. Même si on ne parle pas d'armes nucléaires, même si on ne parle pas de centrales nucléaires pour l'électricité, on parle de petits moteurs centrales qui sont dans les sous-marins. Ça exige de monter toute une filière en Australie, ce qui est un problème politique symbolique majeur. Donc si aujourd'hui les Australiens ont dit oui, c'est parce que c'est dans le cadre d'un échange beaucoup plus global. En fait, les États-Unis prennent l'Australie sur leurs ailes pour le défendre contre la Chine. Disons que l'Australie est devenue cette semaine officiellement une porte-avions des États-Unis dans le cadre de quelque chose qui commence à ressembler de l'alignement face au Japon à la fin des années 20, début des années 30.
Vous voulez dire que les Américains sont en train de réitérer la guerre du Pacifique ?
Je pense qu'ils commencent à réfléchir dans le même façon, surtout quand on prend la carte, les noms sont familiers. Si on parle de Midway, de Hawaï, de Honolulu, de Darwin, de la scie de corail, la mer de corail, et la France joue il y a des enjeux importants parce que on risque de perdre la Nouvelle-Calédonie en décembre.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, alors il y a d'abord une vraie trahison de l'allié français, car non seulement on est membre du commandement intégré de l'OTAN, mais on est également signataire d'un accord stratégique avec l'Australie. Or, l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis nous ont menti, nous ont tenus à l'écart pendant toute leur tractation.
C'est vrai.
Ça, c'est la première chose.
La question qu'on doit se poser, c'est quelle est notre alternative ? C'est comme en économie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une deuxième alliance prête ?
La France cherchait à renforcer ses liens stratégiques avec l'Inde, par exemple, qui cherche à s'équiper, elle aussi, de sous-marins à propulsion nucléaire, parce qu'on sait les faire, hein, les sous-marins à propulsion nucléaire.
Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut jouer un rôle. Et c'est là, je ne pense pas que la France a été déclassée. Je pense que la France a redécouvert de nouveau quelle est sa vraie classe. Nous ne sommes pas dans la Ligue des champions, nous sommes en Première Ligue. Et il faut être le champion de notre Ligue. Et c'est vrai qu'on a un boulevard avec l'Inde, parce que les Indiens, tout en voulant s'inscrire dans quelque chose qui va les aider contre la Chine, j'ai du mal à croire qu'ils vont, s'équiper uniquement aux États-Unis à cause de prix politiques et stratégiques que ces gens de liens apportent.
Et surtout que le Pakistan lui-même s'équipe aussi auprès des Américains. Avec le Pakistan,
alors, le Pakistan il commence à tourner vers la Chine. Je pense que la Chine va, d'une certaine manière, remplacer les États-Unis au Pakistan. Tandis que l'Inde, il y a tout un renversement des alliances par rapport aux années 50-60. Les Pakistanais étaient très avec les Anglais et les Américains. Les Indiens étaient non alignés, c'est-à-dire avec les Russes. Et maintenant, les choses changent parce que le nouveau Nord, c'est plus la Russie, c'est la Chine.
Mais alors, pourquoi est-ce que la France n'a pas été embarquée dans cette histoire d'AUKUS ? Nous sommes présents dans la zone Indo-Pacifique, nous sommes même les voisins de l'Australie grâce à la Nouvelle-Calédonie et à l'île de la Réunion. Nous avons donc des possessions dans le Pacifique, un vaste domaine maritime, des marchés importants. Pourquoi avons-nous été écartés d'emblée de l'AUKUS par nos alliés, alors que la Grande-Bretagne, par exemple, était conviée à la table ?
Je peux hasarder une hypothèse, c'est que à la fin des fins, il y a une certaine aisance et une certaine confiance entre anglo-saxons. Et que malgré tout, même si beaucoup d'eau ont coulé dans le Potomac et la Seine, on n'oublie pas à quel point De Gaulle était casse. Voilà. Et à la fois en 43, 44 et en 66, quand nous avons quitté le commandement intégré, et à quel point la France a toujours voulu jouer un rôle indépendant. Et quand c'est vraiment, vraiment important, les États-Unis préfèrent des alliés plus commodes, qui sont divisés par une langue commune, comme disait Churchill.
Vous voulez dire qu'au fond, l'Amérique, ce qu'on répète souvent, l'Amérique n'a pas d'alliés, elle a seulement des subalternes.
Mais là, elle n'a pas d'alliés, mais elle a des cousins. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vrai que les États n'ont pas d'amis, ils ont des alliés, mais certains alliés sont plus commodes que d'autres.
Et l'OTAN dans tout ça, alors, est-ce que c'est véritablement, comme l'avait dit Emmanuel Macron, en état de mort cérébrale ?
Oui, je pense que l'OTAN... Un petit problème, c'est que l'OTAN manque d'objectifs. L'OTAN existe toujours par deux raisons. Il y a l'élan, donc une organisation qui existe. C'est pas la peine de perturber tant de personnes, etc. Et donc, on continue à le faire fonctionner. Mais deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas une défense européenne. Et l'OTAN, aujourd'hui, c'est le seul, c'est la seule structure qui donne quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une alliance militaire où l'Europe joue un rôle important. Mais ce n'est pas les États, c'est pas les Pentagones des États-Unis de l'Europe, loin de là. Et la question de l'OTAN est clairement posée.
Et la Chine, alors, dans tout ça, comment la Chine a-t-elle vu cette passe d'armes, la France qui retire ses, qui rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie?
Je pense que les Russes sont plutôt contents de voir l'OTAN se fissurer encore. Et les Chinois, c'est dans leur logique. C'est-à-dire, ils sont dans une logique d'affrontement. La Chine n'est pas dans une logique de séduction. La Chine ne fait pas la diplomatie de Coca-Cola, d'Hollywood, de jeans, de culture pop, rock. La Chine montre ses muscles et négocie très, très dur. Et il y a des conséquences de deux côtés. Et je pense que là, il paye le prix de cette stratégie unidimensionnelle de uniquement la force.
Merci Gil Mihaly. On se retrouve juste après une pause avec Alexandre Mars. Il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles pour l'industrie française, notamment la French Tech. Là, ça a été une semaine extraordinaire.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Les valorisations des start-up françaises atteignent des niveaux records. En une seule journée, mardi dernier, deux jeunes entreprises françaises, Miracle et Sorare, ont levé 1 milliard d'euros à L2, qui s'ajoutent aux 5 milliards déjà récoltés par des start-up depuis le début de l'année. La French Tech ne s'est jamais mieux portée. Voilà qui doit vous réjouir, Alexandre Mars. Vous êtes vous-même un sériel entrepreneur à succès. Vous avez créé A2X, Phone Valley, Scroon, que vous avez revendu à BlackBerry. Vous êtes l'auteur du livre Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur, qui est paru l'année dernière et qui vient juste de ressortir en poche chez Pocket. Et vous êtes l'un des investisseurs de Sorare, qui a annoncé donc mardi une levée de fonds de 585 millions d'euros, un record pour une start-up française.
Oui, un record et un développement assez incroyable, avec une rapidité folle. Cette entreprise a à peine 3 ans.
Et il y a encore quelques mois, elle avait levé 40 millions d'euros, je crois que c'est en février.
Exactement, 40 millions d'euros seulement. Alors déjà, c'est quand Frédéric vous dit 40 millions, c'est déjà des sommes considérables. C'est difficile de comprendre que là, il y a 1,5 milliard d'euros qui vont être utilisés pour développer cette entreprise à travers le monde. Alors, ce que fait, c'est un peu compliqué, c'est du NFT, donc c'est
oui,
une sorte
de... Oui, il se trouve qu'on l'a raconté dans une émission il y a un an à peu près, on avait expliqué les NFT, en fait, elle fait l'équivalent des vignettes Panini de footballeurs.
Voilà, des Panini, faisons simple, des Panini de 2021, voilà, vous allez pouvoir échanger ces outils-là, ces cartes, avec une somme qui est attachée. La différence, c'est une carte Panini qui vaut 20 cents d'euros, qui en gros, pourquoi? Parce que vous ne savez pas combien il y a de cartes dans le monde de Messi. Là, particulièrement, on va attacher, grâce au blockchain, un numéro qui sera un numéro unique. Et donc, par exemple, la carte de Messi, vous savez qu'il n'y en a que 10. Et si vous avez 10 000 personnes qui veulent l'acheter, c'est le système de l'offre et la demande. Des entrepreneurs exceptionnels, Adrien Montfort et Nicolas Julia. Parlons un peu Nicolas Julia, juste 2 secondes. Il vient de Perpignan. Ce n'est pas un jeune qui a grandi à Paris, qui a tout fait à Paris, qui est à Station F. Pas du tout. C'est ça aussi l'intérêt de l'entrepreneuriat de plus en plus. L'entrepreneuriat dans les régions amène des grands succès.
Mais alors, une entreprise comme Sorare ou Miracle, je l'ai dit, elles ne sont pas seules. Hein. Au premier semestre, la French Tech a ramassé un peu plus de 5 milliards d'euros. Comment vous expliquez une telle accélération là?
C'est une question de marché, Frédéric. On n'est pas comme on était il y a 10 ou 20 ans. Vous, les auditrices et les auditeurs aujourd'hui, consomment de plus en plus des produits sur Internet, consomment, utilisent, que ce soit les Netflix dont on parle de plus en plus. Enfin, on a un modèle de consommation qui a totalement changé. Et il y a des entrepreneurs qui vont comprendre ces modèles-là et qui vont créer des entreprises. Il va y avoir des créations d'entreprises, d'autres vont certainement péricliter. On a bien vu que vous parlez de BlackBerry tout à l'heure. J'ai en effet vendu une de mes entreprises à BlackBerry. Aujourd'hui, BlackBerry n'existe quasiment pas. Prenons Nokia, prenons Kodak. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont du mal à comprendre que le monde évolue, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Il faut mettre ça en avant. C'est au crédit aussi de notre pays. Il y a aujourd'hui quasiment 1 million de Français et de Françaises qui créent leur entreprise. C'est beaucoup plus que partout ailleurs en Europe. Tous ne vont pas devenir des Sorare. Et heureusement, tout le monde ne doit pas avoir un objectif unique. de lever 500 millions. Ce n'est pas ça l'objectif d'une entreprise, c'est répondre à un besoin, à un marché. Et ça, il y a de plus en plus de gens qui savent le faire.
Mais restons néanmoins sur la French Tech, parce que c'est elle qui était l'honneur cette semaine. Et puis elle lave un peu notre honneur malmené par l'affaire des sous-marins. L'industrie française a été un peu humiliée. Donc réjouissons-nous. Il y a beaucoup d'argent qui ne demande qu'à être investi à notre époque.
C'est vrai.
D'où peut-être la surenchère aussi.
C'est vrai, quand vous avez beaucoup d'argent, Frédéric, vous pouvez avoir des gens qui paient trop cher ou qui peuvent déployer plus d'argent. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, mais en fait, ces produits sont déployés dans des bons endroits. Aujourd'hui, si on prend la Banque publique d'investissement, la BPI, dont les gens entendent peut-être de plus en plus parler parce qu'elle est très moderne et elle fait beaucoup de communication dans ce qu'elle fait, c'est vrai qu'elle a déployé des sommes importantes pour favoriser l'entrepreneuriat. Et je vous reprends juste sur une chose. Aujourd'hui, cette semaine, on a beaucoup parlé de ça. Mais pour moi, ce n'est pas uniquement la French Tech qu'on met en avant, c'est l'entrepreneuriat. Vous savez très bien que pendant des années, l'entrepreneuriat n'était pas quelque chose de positif. C'était compliqué, c'était peut-être si vous n'avez pas fait les bonnes choses ou les bonnes études avant. Aujourd'hui, allez dans une université, allez dans des écoles, les jeunes veulent devenir entrepreneurs. 11 millions de Français, les dernières études, 11 millions de Français rêvent de ça. Et donc c'est ça la semaine. Là, on est tout en haut de l'iceberg. Mais il y a beaucoup d'autres entrepreneuriats, il y a beaucoup d'argent, vous avez raison, français. Et étrangers.
Oui, j'allais dire, c'est surtout de l'argent étranger quand même. Ce sont de grands fonds d'investissement internationaux qui ont fait l'échec dont on parle là. Est-ce que c'est un problème ?
C'est pas forcément un problème. Je sais qu'on va évidemment dire qu'il y a une perte de souveraineté. La BPI aujourd'hui investit énormément. À côté de la BPI, vous avez eu il y a 3 ans de ça, un programme qui s'appelle Tibi, je sais pas si vous avez entendu parler de ça Frédéric, qui en fait a poussé par les gouvernements, le gouvernement à ce moment-là a demandé aux assureurs et aux mutualistes, de dépenser un peu plus en private equity. Alors, de nouveau, c'est des termes un petit peu peut-être compliqués. C'est justement ces entreprises qui ne sont pas encore introduites sur le marché public. Eh bien, ils ont demandé de mettre des milliards, ils ont poussé les gens d'assureurs et les mutualistes de le faire. Et donc, aujourd'hui, il y a de l'argent qui vient aussi de là, qui est d'argent français, qui sont de l'argent aujourd'hui qui sont déployés, d'argent qui est déployé dans ces entreprises-là. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait un vrai problème qu'il y ait de l'argent qui vient de l'extérieur, mais voyons bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont financées par des investisseurs français et d'autres européens, parce que c'est la Banque européenne d'investissement qui a beaucoup de moyens et qui dépense aussi beaucoup d'argent pour faire se développer le mieux possible ces entreprises.
Est-ce qu'il faudrait une place boursière digne de ce nom pour les valeurs de la tech ? Est-ce qu'il faudrait un Nasdaq européen, Alexandre Mars ?
C'est évidemment un sujet. Quand aujourd'hui les entreprises veulent aller ce côté, c'est la suite logique. Quand vous êtes privé, vous êtes devenu public, vous devez aller vous coter sur le marché. Aujourd'hui, c'est vraiment le Nasdaq ou le NYSE qui prennent la plus grande part du lion. Il faut arriver à développer. On le voit que les plages de marché européennes sont en train de se concentrer, se racheter pour être un petit peu en face de ça. On a une belle entreprise française qui s'appelle Believe qui a été introduite en bourse il y a quelques semaines de ça. Donc c'est faisable, il y a des choix qui peuvent être faits aujourd'hui. OVH aussi est une autre belle entreprise française qui a aussi levé beaucoup d'argent mais qui aussi a fait des revenus importants, qui veut se coter sur le marché européen. Ça prouve que c'est faisable, mais vous avez raison Frédéric, il faut que ça soit encore plus fort demain pour qu'on puisse justement avoir ces belles entreprises qui restent cotées sur le marché européen.
Et qu'une entreprise de la French Tech entre au CAC 40, ça vous semble possible ça ?
Ça va arriver. Alors, vous me réinviterez peut-être dans 2 ans, peut-être qu'on aura cette discussion-là. La plus petite valorisation du CAC 40, Frédéric, vous savez quelle est la valorisation ?
Non.
C'est Renault, elle est à 9 milliards. La plus grande valorisation de la French Tech, on en parle depuis tout à l'heure, c'est Sorare, à peu près 4 milliards. Donc il y a un petit peu de travail à faire. Alors vous allez peut-être me dire, mais comment c'est possible qu'une entreprise qui a été créée il y a 3 ans vaille 4 milliards, la moitié de Renault ? C'est très complexe à expliquer, les croissances sont très fortes, les revenus sont aussi là, les marges sont importantes. Mais oui, ça va arriver, c'est une évidence, votre CAC 40 classique va être pas remplacé. Mais on va voir qu'il y aura certainement une plus grande diversité. Et ces entrepreneurs, ces jeunes entreprises vont arriver en 2025, 2026, 2027. Et c'est ça qui est aussi bien. C'est le monde d'aujourd'hui. Il est différent de celui d'il y a 10 ans.
Sorare et Miracle font désormais partie des licornes, ces startups de la tech valorisées plus d'un milliard de dollars. Elles sont 21 en France aujourd'hui, je crois. Hein. Il y a Dataiku, Content Square, Babacar, Voodoo, Deezer, Doctolib. Emmanuel Macron en voulait entre 20 et 25 à la fin de son mandat. Il peut être satisfait ?
Oui, il peut être satisfait. Je ne suis pas persuadé que le nombre d'unicornes soit uniquement le reflet du talent de nos entrepreneurs, du développement potentiel. Et encore une fois, il faudrait que c'est très important pour vos auditrices et vos auditeurs qui comprennent que l'entrepreneuriat n'est pas que ça. Et je sais qu'on en parle là, c'est important, c'est des gros chiffres, c'est... mais ce n'est pas que ça. C'est ce que je mets, ce que j'écris dans ce livre, Ose, qui est vraiment un guide pour ces entrepreneurs partout en France. Vous pouvez le faire, ne vous mettez pas une pression absolue dès le départ de devenir le prochain Elon Musk ou Xavier Niel. Très peu de gens y arrivent, et tant mieux.
Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Votre livre vient de ressortir en poche chez Pocket. Merci Alexandre Mars.
Merci Frédéric.
On se retrouve dans un instant avec une archéologue. C'est Anne Leoerf qui publie son dictionnaire amoureux de l'archéologie.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Anne Leoerf, vous êtes archéologue. Professeur des universités, vous présidez le Conseil national de la recherche archéologique et vous publiez chez Plon le dictionnaire amoureux de l'archéologie, une discipline qui a fait des progrès considérables, me semble-t-il, ces dernières décennies, notamment depuis le vote de la loi sur l'archéologie préventive il y a 20 ans. L'aménagement du territoire ne se fait plus désormais au détriment des vestiges du passé, mais permet au contraire l'intervention des archéologues en préalable des chantiers. Vous arrivez avant les bulldozers. Hein.
Oui, l'archéologie dite préventive en France arrive avant les bulldozers, c'est-à-dire qu'il y a effectivement tout un ensemble de procédures qui sont mises en place avant les travaux. Donc un diagnostic, des diagnostics pour évaluer s'il y a ou pas des vestiges archéologiques. Et puis si le diagnostic est positif, on peut prescrire des fouilles archéologiques.
Ce qui nous a permis de faire des progrès considérables sur les Gaulois, mais aussi sur le néolithique, c'est-à-dire cette période de 7, 8, 10 000 ans qui se situe entre les hommes préhistoriques et les Gaulois, justement. Il y avait ce grand trou noir, cette page blanche qu'on ne nous apprenait pas à l'école. Je ne sais pas si on nous l'apprend beaucoup plus, mais sur lequel on sait énormément de choses aujourd'hui.
L'archéologie préventive, aux côtés de l'archéologie dite programmée, les deux ont travaillé de concert et travaillent de concert aujourd'hui, a permis d'ouvrir le champ de l'archéologie et d'aborder des thèmes et des sujets qu'on ignorait. Et en particulier, tout ce qui est lié en fait à l'ouverture de très grandes surfaces. Ce qui est le cas quand on étudie les implantations du néolithique ou les implantations des Gaulois. On n'est pas sur des toutes petites occupations, on est sur des grandes surfaces. Et puis, ça permet d'aborder l'implantation dans des champs, les moyens de transport, les voies de communication. Et donc, l'archéologie préventive a joué un très, très grand rôle dans ces ouvertures très larges qui ont permis d'ouvrir des fenêtres qu'on ignorait jusque-là.
On y reviendra. Il y a une autre petite révolution que vous racontez dans votre dictionnaire amoureux. Elle est un peu plus ancienne d'ailleurs. C'est quand on a fait des fouilles au début des années 90 pour identifier le corps d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Môle, tué à 27 ans dans la Meuse au tout début de la Première Guerre mondiale. Jusque-là, l'archéologie était réservée au passé lointain.
Quand je dis ouvrir les fenêtres, c'est aussi les fenêtres chronologiques. Dans les années 90-2000, on a vraiment ouvert, c'est-à-dire qu'on ne s'est plus rien interdit, ni d'une certaine manière en superficie, ni en chronologie. C'est-à-dire qu'on a repoussé, on avait déjà repoussé les frontières du temps vers un très 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 ancien, on l'a précisé, on a encore été plus loin, et puis on a regardé l'histoire récente à travers l'œil de l'archéologie, et on s'est aperçu qu'effectivement cette archéologie disait, donnait des informations que l'on n'avait pas autrement que par ce biais-là.
Vous êtes entré, par exemple, vous, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, 4 jours après l'incendie qui l'a ravagé en avril 2019. Pourquoi ? On a l'habitude de faire de l'archéologie dans de telles circonstances ?
On n'a pas l'habitude, mais heureusement, Notre-Dame n'a pas l'habitude non plus de brûler, ni de grands bâtiments. Mais ce sont des moments exceptionnels d'un point de vue de l'archéologie, parce que d'une certaine manière, le temps s'est complètement raccourci dans une destruction immédiate. Alors qu'en général, un bâtiment qui brûle, qui est abandonné, il va petit à petit se sédimenter, être recouvert de terre et les archéologues arriveront bien plus tard. Là, il y a une sorte de télescopage entre l'événement lui-même dramatique et la venue des archéologues qui est venue très très vite et qui, avec leur œil d'expert vis-à-vis des vestiges, vis-à-vis de la manière dont les vestiges s'agencent les uns avec les autres, ont eu un autre regard que celui des gens qui ne connaissent pas l'archéologie.
Quelle impression ça vous a-t-il fait ?
Ah, c'est un choc, ça a été un choc de rentrer dans Notre-Dame, parce que c'est un bâtiment qu'on connaît, et puis tout d'un coup on le voit sous un œil de destruction, et puis il y avait une atmosphère qui était absolument incroyable, il y avait une lumière qui était tout à fait étonnante, Et il y avait une odeur que moi j'ai remarquée immédiatement, parce que ma spécialité c'est la métallurgie.
C'est l'âge du bronze.
C'est l'âge du bronze et la métallurgie de manière encore plus précise. Et ça sentait comme dans un atelier de bronzier. Donc c'était quand même très très étrange de rentrer dans Notre-Dame et d'avoir cette impression-là.
Votre livre fourmille d'anecdotes. Par exemple, le casque d'Astérix avec les petites ailes sur les côtés, dont on croit que tous les Gaulois étaient affublés. C'est une erreur en fait qui vient de la découverte de 9 casques dans le Calvados en 1832 par un archéologue amateur.
Alors c'est même pas un archéologue amateur, c'est vraiment au cours de travaux agricoles que les casques ont été trouvés. Et il y a beaucoup de vestiges qui ont été trouvés durant des siècles, sauf que là ça ressemblait quand même vraiment à quelque chose que l'on connaissait, des casques, puisqu'ils ont vraiment la forme de casque. Et donc ils ont été partagés, distribués, donnés entre le propriétaire qui l'a donné à des morceaux de sa famille. Enfin, et donc il y a eu une distribution de ces vestiges comme on le ferait plus évidemment aujourd'hui. Et puis ces vestiges-là n'étaient pas datés ou mal datés, 1832, on ne connaissait pas cette période qui est l'âge du bronze que l'on connaît bien aujourd'hui en France, et donc très logiquement, on a d'une certaine manière, on les a mis sur la tête de ce qui semblait le plus vraisemblable, à savoir les Gaulois. Et en fait, à l'exposition universelle de 1867, ils ont été l'incarnation du Gaulois, et depuis ils ont du mal à quitter la tête du Gaulois, c'est-à-dire qu'on les retrouve partout.
Alors qu'on sait qu'ils datent de quand en réalité ?
Ils datent de l'extrême fin du deuxième millénaire, début du premier millénaire avant notre ère. Donc ils ont 1000 ans de trop récent.
Donc la fin de l'âge du bronze.
Donc la fin de l'âge du bronze, exactement.
Effectivement. L'archéologie a totalement révolutionné ces derniers temps nos connaissances sur les Gaulois. On l'a dit, on s'est aperçu que la Gaule, ce n'était pas du tout une gigantesque forêt comme on l'imaginait. Au contraire, elle était déboisée, elle était agricole. Il y avait une soixantaine de villes reliées entre elles par des voies de communication. Il y avait un artisanat très très riche. Il y avait de la métallurgie, vous devez être ravis. Ce n'était pas du tout les barbares que l'on croyait.
Non, les barbares, c'est vraiment une figure qui a été... alors, les barbares vaillants, guerriers, ça arrangeait bien César dans la guerre des Gaules, parce que quand l'ennemi est fort, c'est quand même mieux de réussir à le vaincre.
Oui, c'est lui qui a dit qu'on était courageux. Enfin, je dis « on », mais...
Voilà, c'est ça. Donc, ça lui permettait, lui, le vainqueur, de se mettre dans une position encore plus favorable. Et puis, effectivement, la construction de l'histoire du XIXe siècle a fait du Gaulois une figure de barbare, ce qui permettait aussi de légitimer finalement l'arrivée des Romains qui nous ont civilisés.
On fait une pause, Anne Leuerf, et on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Anne Leuerf qui publie son dictionnaire amoureux de l'archéologie. On découvre qu'il y a beaucoup d'affaires de faux en archéologie. Remarquez, c'est pas étonnant. Hein. Et parmi les plus célèbres, il y a la mâchoire du moulin Quignon qui entacha la réputation de Jacques Boucher de Perthes, qui voulait démontrer qu'il existait un homme antédiluvien, un homme préhistorique au fond, ayant vécu avant le déluge. Or, en 1860, on croyait au déluge, mais on croyait aussi que Dieu avait créé le monde il y a quelques milliers d'années. Donc, le fait que tout à coup cette mâchoire arrive au milieu de ces découvertes, ben, ça nous a fait reculer pas mal. Hein, on a mis encore un peu plus de temps à admettre qu'il y avait eu un homme préhistorique.
Oui, en fait, là, c'est vrai que c'est un paradoxe, parce que finalement, Boucher de Perthes avait raison, fondamentalement. Et en fait, ce montage dont l'histoire n'est certainement pas due qu'à lui, mais aussi à des ouvriers.
Il avait donné une prime. Hein,
il avait donné une prime à qui trouvait. Alors forcément, ça a incité certains petits malins à trouver que si c'était eux qui trouvaient, ce serait bien d'avoir la prime.
Et donc de mettre une mâchoire.
Et donc de mettre une mâchoire dans une coupe qui permettait en stratigraphie de prouver que cette mâchoire était ce que l'on appelait, ce que Boucher de Perthes avait appelé l'antédiluvien. Donc avant le déluge, ce qui permettait d'inventer la préhistoire et d'essayer de faire passer cette réalité auprès de savants qui n'étaient pas tous prêts à admettre cette ancienneté de l'homme qui ne rentrait pas dans le calendrier chrétien.
Et là, il fallait vraiment des archéologues. Sans archéologues, on n'aurait jamais pu découvrir ce continent qu'est la préhistoire.
Oui, parce que finalement, l'histoire est intégrée dans les strates, dans une stratigraphie, dans la Terre. Et donc, ce sont les archéologues émergents, liés, j'allais dire, aux sciences de la Terre, ou à la géologie en particulier, qui a permis d'inventer la préhistoire. Parce que l'histoire, véritablement, de l'ancienneté de l'homme était inscrite dans ces couches géologiques très récentes et dans lesquelles on pouvait voir la superposition, l'antériorité, la postériorité et donc l'antériorité de l'homme par rapport à des espèces qui avaient disparu.
Et sachant que les historiens s'intéressent à tout ce qui est écrit, donc y compris la Bible, et tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose dans le sol qui nous prouve que la Bible s'est peut-être trompée, on croit en la Bible.
Oui, alors ça c'est toute la difficulté entre la croyance, les textes, le travail des historiens. Alors la définition de l'histoire par l'écrit, moi j'ai une grosse réserve, parce que je pense que quand on est archéologue, on est historien de manière pleine et entière. Simplement, si j'ose dire, on raconte l'histoire à travers une documentation matérielle, des vestiges qui sont tout petits, des traces dans la terre, des trous de poteaux, des trois fois rien.
Vous dites d'ailleurs dans votre dictionnaire amoureux que pour faire de l'archéologie, il faut de l'imagination.
Oui, parce qu'en fait, on travaille, on a un drôle de métier. C'est-à-dire qu'on travaille sur des vestiges qui existent vraiment, matériels. On travaille sur des traces qui ont disparu. Le geste qui a servi à fabriquer le biface ou le casque d'Astérix. On travaille à partir de lacunes, puisqu'il nous manque toute une partie de la documentation. On ne travaille que sur ce qui subsiste. Et on essaie de recréer la vie à travers des bouts de trucs qu'on a et tout ce qui nous manque. Donc c'est vrai que c'est quand même une drôle d'opération. Mais voilà, c'est une grande enquête du passé qui est une enquête historique au sens plein.
La plus vieille momie d'Europe, c'est Ötzi, qui a été découvert dans les Alpes à 3210 mètres d'altitude en 1991. Il a été tué par une flèche au 3 ou au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Mais quand des randonneurs l'ont trouvé, comme il était très bien conservé, ils ont cru un accident récent. Et quand la police a vu qu'il y avait une plaie, il y a eu une plainte contre X pour assassinat qui a été déposée. À ce moment-là, personne n'imaginait que cette momie était si ancienne.
Oui, enfin, les gens qui ont été sur le terrain n'ont pas imaginé. Mais l'histoire d'Ötzi est une histoire, j'allais dire une histoire dingue. Oui, c'est une histoire folle. C'est un vrai thriller. Entre la découverte avec des épisodes à rebondissement où on a utilisé même un marteau-piqueur pour essayer de le dégager, le pauvre homme, en abîmant évidemment le terrain. Le combat entre l'Autriche et l'Italie pour savoir à qui il appartenait. Des séries d'enquêtes pour savoir comment il avait été tué. Des moyens absolument incroyables mis au service d'Ötzi, y compris des moyens d'investigation du FBI. C'est une histoire folle et en plus elle est associée à soi-disant une forme de malédiction puisque les découvreurs sont morts, le premier archéologue qui l'a étudié est également mort de manière prématurée. Donc ça donne une histoire absolument fantastique sur un sujet très sérieux puisque Ötzi est effectivement la plus ancienne momie d'Europe. Et c'est un sujet du néolithique final qui est extrêmement intéressant pour comprendre un petit peu les hommes de cette époque, puisqu'il est conservé, alors que d'habitude, on n'a que les restes osseux, les dents, et on n'a jamais ce qu'on appelle...
On a tout,
on a même son dernier repas, on sait qu'il a mangé de la viande séchée, de bouquetin, on a ses habits.
On a
ses vêtements, il a des tatouages aussi qui ont été conservés. Et qu'on a donc pu étudier. Enfin, c'est un sujet.
Vous parlez de malédiction, parce qu'effectivement, il y a une histoire de malédiction qui entourait aussi Howard Carter, qui était le plus célèbre archéologue avant Indiana Jones. Lui aussi, il y avait une malédiction. Ça ne vous a pas fait peur quand vous avez embrassé cette carrière, toutes ces malédictions qui rôdent autour des archéologues?
J'aurais peut-être dû, mais non, très honnêtement.
Vous n'avez toujours pas été maudite.
Pas à ma connaissance, en tout cas.
Merci Anne Le Herf d'être venue sur Europe 1, dictionnaire amoureux de l'archéologie, ça vient de paraître chez Plon.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. Rendez-vous demain matin à 9h. Pierre de Villeneuve a fait son apparition dans le studio. Les grandes voix, c'est dans quelques minutes. Alors quel est le programme, Pierre ?
On parlera bien sûr du débat Zemmour-Mélenchon. On parlera de la désignation du candidat des Républicains et du départ d'Angela Merkel.
Bonne émission.